Et alors, ces copies sont-elles conformes au texte original? Et nous avions répondu que, justement, en parlant au moins des versions latines, que l'Église avait défini au Concile de Trente qu'il n'y avait pas d'erreur substantielle dans la Bible de la Vulgate, la Bible de Saint Jérôme, qui est traduite donc par Crampon. Il n'y a pas d'erreur substantielle par rapport au texte original, et il y a immunité d'erreur par rapport à la foi et aux mœurs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir d'hérésie, ni sur le plan de la foi, ni sur le plan de la morale, dans la Bible telle qu'elle nous est reçue de Saint Jérôme. Et ce qui était très intéressant à noter, c'est que la cause de cette authenticité de la Vulgate vient de l'argument de tradition. C'est l'usage que l'Église en a fait, donc ça faisait déjà plus de 10 siècles entre le moment où elle avait été traduite par Saint Jérôme, qui a vécu au IVe siècle, et le Concile de Trente, au XVIe siècle. Donc, importance dans l'Église de l'argument de tradition. Que l'Église a toujours cru, ce que l'Église a toujours enseigné, c'est là le critère de la foi. Et donc c'est très important pour un catholique de ne pas s'en tenir uniquement à la lettre des Saintes Écritures, mais à l'esprit qui nous est donné par la Sainte Église. Première distinction qu'on fait entre le sens inspiré et le sens non inspiré. Qu'est-ce que c'est que le sens inspiré? Le sens inspiré, c'est le sens qui est voulu à la fois par l'écrivain sacré, au moment où il écrit le texte, et également par Dieu. Ou au moins qui est voulu par Dieu, étant donné que c'est Dieu l'auteur principal. Et le sens non inspiré, c'est un sens qui n'est pas voulu par Dieu ni par l'écrivain sacré de prime abord, mais c'est un sens que l'on peut donner et que l'Église donne au texte, par extension, comme nous allons le voir. Alors, le sens inspiré lui-même se divise en deux grandes catégories. Vous avez d'abord le sens littéral. Le sens littéral, c'est le sens premier d'un texte, selon la lettre du texte. Et ensuite, vous avez le sens spirituel, qui est encore appelé sens typique. La dernière fois, nous avions commencé à parler, à présenter le sens littéral. Je rappelle ce qu'on avait dit brièvement du sens littéral. Le sens littéral, c'est le sens que l'écrivain sacré a en vue directement et qui se dégage à la lecture du texte. Ce sens littéral peut être propre ou métaphorique. Le sens propre est le sens des mots pris dans leur valeur ordinaire. Jésus, fatigué de la route, s'assit au bord du puits. Saint Jean chapitre 4, verset 6. Ça veut dire que notre Seigneur était fatigué et s'est assis. Tout simplement. Donc c'est le sens littéral. Le sens métaphorique, c'est le sens des mots, mais pris dans leur valeur imagée. Quand Saint Jean-Baptiste présente notre Seigneur et dit « Voici l'agneau de Dieu ». Notre Seigneur n'est pas un agneau, mais c'est une image qui est prise. Ou lorsque notre Seigneur dit de ses apôtres « Vous êtes le sel de la terre ». Ça reste bien le sens littéral, c'est bien la lettre du texte qu'il faut prendre, mais dans sa valeur imagée. Alors les règles que nous avions données, la première, tout passage de l'Écriture sainte a un sens littéral. Celui-ci, cependant, ne peut être, peut n'être qu'impropre. C'est donc en particulier l'exemple que je vais donner du livre du Cantique des Cantiques. Ensuite, quand le sens spirituel existe, il est toujours fondé sur le sens littéral. Et enfin, troisième règle, il est aujourd'hui reconnu que tout passage de la Bible n'a réellement qu'un seul sens littéral. Et donc la dernière fois, nous étions arrêtés là. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler du sens typique ou spirituel, et ensuite du sens qu'on appelle accommodatis ou sens non aspiré. Accommodatis parce que c'est une accommodation que nous faisons. Au sens biblique du terme, le type est un événement au sens large. Donc il peut s'agir d'une personne, d'une chose, d'un acte, d'une institution qui, par suite d'une disposition spéciale de la Providence, figure d'avance un événement futur. Donc le type, c'est un événement, vous comprendrez mieux quand vous verrez des exemples, qui figure d'avance un événement futur. Un événement présent qui est en même temps figure d'un événement futur. Ainsi, par exemple, Adam, c'est un événement, il s'agit ici d'une personne, est la figure de l'Adam à venir. L'Adam à venir, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. C'est saint Paul qui le dit dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 14. Pourtant, la mort a régné d'Adam à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de l'Adam à venir. Donc ici, saint Paul, dans son épître aux Romains, nous dit qu'Adam était une figure de l'Adam à venir, à savoir notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, nous pourrons dire que Adam est le type de notre Seigneur. Quant à l'événement préfiguré, il prend le nom d'antitype. Donc notre Seigneur est l'antitype et Adam apparaît comme le type. Dieu seul peut créer des types ainsi compris, puisque lui seul gouverne le monde et tient les hommes dans sa main. Le type a sa raison d'être en lui-même, indépendamment du sens préfiguratif que Dieu y attache. Par exemple, l'agneau pascal est une figure de l'agneau qu'est notre Seigneur qui va s'immoler pour nous. Puisque nous avons dit, saint Jean-Baptiste, en présentant notre Seigneur, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde ». Mais l'agneau pascal avait une valeur déjà en lui-même. C'était un véritable agneau qui était immolé, il y avait une valeur déjà de symbole. Une valeur réelle plutôt. Et par là, le type se distingue du symbole dont toute la raison d'être est de figurer une autre réalité. Alors, un exemple maintenant de symbole qui a pour but de figurer une réalité, c'est le joug porté par Jérémie, par le prophète Jérémie, à son cou qui présageait la durée de l'exil. Donc ça, c'est raconté dans le livre de Jérémie au chapitre 28. Alors Anania, le prophète, enleva le joug du cou de Jérémie, le prophète, et le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle Yahvé, c'est ainsi que dans 2 ans, je briserai le joug de Nabuchodonosor, roi de Babylone, l'enlevant du cou de toutes les nations. Et Jérémie, le prophète, s'en alla. Il est évident que s'il n'y avait pas eu donc, ce sens symbolique, le prophète Jérémie ne serait pas amusé à se balader avec un joug sur le cou. Donc, s'il l'avait porté, c'était dans un sens symbolique. Ce qui n'est pas le cas du type tel qu'on le conçoit dans l'exemple que nous avons pris tout à l'heure d'Adam, qui est figure du nouvel Adam. Alors, définition qu'on peut donner du sens typique, c'est le sens que l'Esprit-Saint, auteur principal des Écritures, a voulu manifester, non pas immédiatement, par les mots dont usaient les auteurs sacrés, ça c'est le sens littéral, mais de façon médiate, par quelques-uns des événements dont ces mots étaient l'expression. Alors je vais donner plusieurs exemples, et comme ça vous arriverez à comprendre ce qu'est ce sens typique. Le sens typique est aussi appelé mystique, parce qu'il est caché sous la lettre, et spirituel parce qu'il forme l'esprit de la Sainte Écriture dont le sens littéral ne forme que le corps. Alors ce sens typique pourra être prophétique ou encore moral ou encore anagogique quand il signifiera une réalité, la réalité du ciel. Donc il est d'abord prophétique. Le sens typique est prophétique ou allégorique si le type préfigure le Christ ou son Église. Ces types sont nombreux, ce sont des personnes. Adam, figure du nouvel Adam. Noé juste par excellence, préfigure encore le Christ. Et on peut dire que tous les grands personnages de l'Ancien Testament, d'une certaine manière, étaient des figures de notre Seigneur. Melchisédek, en offrant le pain et le vin, est figure de notre Seigneur, prêtre, qui a choisi pour son Église le pain et le vin comme matière du sacrifice. Et c'est pour ça que la Sainte Écriture disait que Melchisédek apparaissait comme sans père, sans mère et sans généalogie. parce qu'il figurait, d'une certaine manière, l'éternité de Dieu. Un exemple encore plus frappant, Isaac portant le bois qui devait servir à son immolation, vous vous rappelez de cet épisode d'Abraham qui avait demandé, avait suivi l'ordre de Dieu, Dieu qui lui avait demandé de livrer à la mort son fils Isaac et de l'immoler au sommet du mont Moria. Et ensuite, au dernier moment, le bon Dieu était intervenu pour sauver Isaac. C'était simplement pour savoir si pour tester le degré de foi d'Abraham. Eh bien, Isaac portant le bois qui devait servir à son immolation est l'image de notre Seigneur portant sa croix. Et quand on dit ici « est l'image de notre Seigneur portant sa croix », ça veut dire que Dieu avait déjà cela en vue au moment où il conduisait les événements dans l'Ancien Testament. Et Dieu seul est capable, on verra, d'être l'auteur ainsi du sens spirituel, parce que Dieu seul est capable de connaître les événements à venir. Alors le mystère pour nous, c'est qu'on se dit « s'il dicte ainsi les événements, les hommes ne sont pas libres ». Eh bien, le bon Dieu étant le bon Dieu, il est capable de dicter les événements tout en faisant en sorte que l'homme reste libre. Et ça, c'est un mystère pour nous. Moïse conduisant le peuple élu dans la terre promise est l'image de notre Seigneur nous conduisant sur la route du ciel. Donc, quand on dit que c'est vraiment le sens spirituel, ça veut dire que c'est vraiment le sens voulu de Dieu. Ce n'est pas une simple extrapolation que l'on fait pour prendre une image, pour dire l'un semble ressembler à l'autre. Non, c'est vraiment la réalité. Le sens typique, ça peut encore être, au-delà des personnes, des choses. Ainsi, l'arche de Noé. L'arche de Noé est la figure de l'Église. La manne. La manne est la figure de la Sainte Eucharistie. La manne dont se nourrissaient les Hébreux dans le désert. Et ils en mangeaient tous les jours, parce que l'Eucharistie doit être notre pain quotidien. Le serpent d'airain, je le développerai un petit peu plus tout à l'heure, le serpent d'airain est une figure de la croix, ce serpent d'airain brandi par Moïse dans le désert. Les types peuvent encore être des événements. Ainsi, le sacrifice de l'agneau pascal, comme on l'a dit tout à l'heure, est la figure du sacrifice de notre Seigneur. Le passage de la mer Rouge est la figure du baptême. De la même manière que les Hébreux ont été libérés du joug des Égyptiens pour se rendre vers la terre promise, de la même manière, celui qui est baptisé quitte le royaume du diable pour s'avancer vers la terre promise, à savoir le ciel. Mais ensuite, cette traversée dans la terre promise se fera dans le désert, c'est-à-dire dans la nuit de la foi. Et ce n'est qu'au bout de cette nuit de la foi que le chrétien arrivera dans la terre promise où coule le lait et le miel, à savoir le ciel. Donc cela est vraiment un sens voulu de Dieu. Et c'est pourquoi ce serait méconnaître la Sainte Écriture, que de ne regarder que le Nouveau Testament, en disant l'Ancien Testament, bon ça c'était ça regardait les Juifs pour qu'ils se préparent à la venue du Messie, nous l'essentiel se trouve dans le Nouveau Testament. Eh bien il y a vraiment une union des deux Testaments, et il importe que les chrétiens connaissent ce sens voulu par Dieu, qui est très riche de leçons spirituelles pour nous. Le sens typique est encore appelé tropologique lorsqu'il renferme une leçon morale. Ainsi, par exemple, la manne recueillie avant le lever du soleil apprenait aux Israélites qu'il convenait d'élever leur cœur vers Dieu dès le matin pour bénir l'auteur de tout lieu. Alors vous pourrez dire, mais comment vous pouvez me dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que le fait que la manne tombe très tôt le matin et qu'ensuite elle fondait au soleil, qu'il faut lever son cœur vers Dieu? Eh bien, la Sainte Écriture est commentée par la Sainte Écriture. Et le commentaire de ce passage se trouve dans un des livres de la Sagesse, et dans le livre même de la Sagesse. La manne fondait à la chaleur du moindre rayon de soleil, pour faire savoir qu'il faut devancer le soleil pour vous rendre grâce et vous solliciter dès l'aube. Livre de la Sagesse, chapitre 16, verset 28. Donc beaucoup de passages de la Sainte Écriture se trouvent dans la Sainte Écriture. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de sectes, ils connaissent qu'une partie des textes de la Sainte Écriture, ce qui fait qu'ils sont capables d'en faire dire n'importe quoi, alors que quand on connaît les autres le commentaire de certains passages par d'autres passages, à ce moment-là, on ne peut pas se tromper sur le sens. Le sens typique est encore appelé anagogique lorsque le type se réfère aux réalités du ciel. Ainsi, par exemple, la Jérusalem de la Palestine était le type de la Jérusalem céleste. Dans le livre de l'Apocalypse, il est dit au chapitre 21, verset 2, « Je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, descendre du ciel d'auprès de Dieu. » Donc, il y a un rapport entre la Jérusalem de la terre et le ciel qui est comparé à la Jérusalem nouvelle. L'existence de ce sens typique se démontre par l'écriture et la tradition. Notre Seigneur lui-même mentionne la relation typique entre le serpent d'airain et son propre sacrifice sur la croix. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, lors de la traversée du désert, pendant ces 40 ans qu'ont passé les Hébreux dans le désert, sous la conduite de Moïse, les Israélites, à un moment donné, se sont impatientés contre Dieu et contre Moïse. Enfin, je dis à un moment donné, en fait, ils se sont impatientés pendant 40 ans. Mais à un moment donné, eh bien, un fléau est tombé. Alors, pour les punir, le bon Dieu leur envoya des serpents qui les mordirent et beaucoup moururent, si bien que les autres ont pris peur. Alors le peuple implora la miséricorde de Dieu. Quand le bon Dieu commence à exercer sa justice, en ce moment-là, tout le monde recourt à sa miséricorde. Et Dieu dit à Moïse de faire un serpent d'airain. Quiconque regarderait le serpent serait guéri. Cela est décrit au livre des Nombres, chapitre 21, verset 89. Donc un des cinq premiers livres de l'Ancien Testament. Or, notre Seigneur dit à ce sujet, « De même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc c'est notre Seigneur lui-même qui vient montrer, qu'il vient réaliser cette prophétie, ou ce type, ce sens spirituel du serpent d'airain de l'Ancien Testament. Donc si tous ceux qui regardaient ce serpent d'airain étaient guéris, ce serpent d'airain que tenait Moïse, le serpent d'airain était la figure de la croix. Tous ceux qui se tournent vers la croix, qui se tournent vers notre Seigneur, ont la grâce du salut, sont rachetés également de leurs péchés. Et c'est pour cela que notre Seigneur a pu dire, « Lorsque je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. » De même, notre Seigneur fait le lien entre le signe de Jonas et sa propre résurrection. Certains aujourd'hui mettent en doute le fait que Jonas ait pu passer 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Alors depuis, d'après les éléments que j'ai eus, je ne me rappelle plus où j'ai trouvé ça, que ça ne pouvait pas être une baleine, qu'il n'aurait pas pu survivre dans une baleine, mais que ça devait être un requin. Enfin, j'en sais rien, je ne sais pas la dimension des requins. Mais notre Seigneur lui-même commente ce passage en disant « De même que Jonas demeura 3 jours et 3 nuits dans le ventre du cétacé dit la baleine, ainsi le Fils de l'homme demeurera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Donc voyez comment est-ce que l'Ancien Testament à nouveau est figure du Nouveau. L'Ancien Testament est figure du Nouveau. Et le Nouveau réalise l'Ancien. De même, il y a un lien entre Élie, le prophète Élie, et saint Jean-Baptiste. Les apôtres demandèrent à notre Seigneur, « Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Notre Seigneur répond, « Élie venant d'abord va tout restaurer. » Alors les apôtres à nouveau posent la question à notre Seigneur, « Alors comment se fait-il qu'il est écrit du Fils de l'homme qu'il doit beaucoup souffrir et être méprisé ?»« Eh bien, répond notre Seigneur, je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils ont fait tout ce qui leur a plu. » En effet, l'ange dit à Zacharie que saint Jean-Baptiste marcha devant Dieu avec l'esprit et la sagesse d'Élie. Donc Élie est le type de saint Jean-Baptiste. Et quand notre Seigneur dit qu'Élie est déjà venu et a tout restauré, pour tout restaurer, il s'agissait en ce moment-là de Saint Jean-Baptiste. Donc on peut dire qu'Élie était une figure de Saint Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi lorsque notre Seigneur dit Élie est déjà venu, il parlait d'Élie pour parler de Saint Jean-Baptiste, qui est le nouvel Élie. Voyons maintenant le lien à nouveau entre l'Ancien Testament et notre Seigneur. Notre Seigneur dit aux Juifs, vous scrutez les Écritures parce que vous pensez par elles avoir la vie éternelle. Ce sont elles précisément qui me rendent témoignage. Donc notre Seigneur dit que la Sainte Écriture, donc l'Ancien Testament, rend témoignage en faveur de notre Seigneur. Si l'Ancien Testament rend témoignage en faveur de notre Seigneur, c'est donc que l'Ancien Testament est bien figure du Nouveau. Ne pensez pas que ce soit moi qui vous accuserai auprès du Père. Votre accusateur, ce sera Moïse, en qui vous avez mis votre espoir. Si en effet vous croyez en Moïse, vous me croiriez, parce que c'est de moi qu'il a écrit. Moïse a écrit de moi. Et de même encore, notre Seigneur dit aux disciples d'Emmaüs après sa résurrection, « Alors commençant par Moïse et continuant par tous les prophètes, il leur expliqua ce qui, dans toutes les Écritures, le concernait. » Alors quand je vois que dans le nouveau catéchisme, qui vient de paraître dans le catéchisme du monde, hein, catholique universel, ils disent que, en parlant des Juifs, que les Juifs et les catholiques, en fait, il y a très peu de différence, puisque il y en a un qui attend le retour du Messie, puis l'autre attend que le Messie doit venir, mais enfin, que c'est à peu près la même chose. Dans un cas, on attend qu'il vienne, dans un autre cas, on attend qu'il revienne. Entre venir et revenir, il n'y a pas grande différence. Et alors, ils disent que les buts sont à peu près analogues. Alors, dire que les buts sont analogues entre les catholiques et les Juifs, c'est pas tout à fait ce que disait notre Seigneur. Puisqu'il dit, en parlant des Juifs, que leur accusateur, ce sera Moïse, en qui ils ont mis leur espoir, et que s'ils croyaient en Moïse, ils croiraient aussi en notre Seigneur, puisque c'est de notre Seigneur que Moïse a écrit. Les apôtres et saint Paul en particulier mettent en lumière à plus d'une reprise le sens typique de l'Ancien Testament. Dans le désert, dit saint Paul aux Corinthiens, tous burent le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher spirituel était le Christ. Donc, le rocher était bien encore une figure du Christ. Et saint Paul va développer encore en long et en large l'histoire d'Agar et de Sarah, les deux femmes d'Abraham, qui symbolisent, qui sont une allégorie prophétique des deux testaments. Agar, qui est la fille de l'esclave, est l'image de l'Ancien Testament, et Sarah, la femme libre, est l'image du Nouveau Testament. Et dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 21 à 30, vous avez cette explication, le commentaire qu'en fait saint Paul, et qui est lu dans un des épîtres de dimanche, quoi, chaque année. Saint Augustin résume le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament en disant que le Nouveau Testament était voilé dans l'Ancien, et l'Ancien est révélé dans le Nouveau. Alors, application du sens typique. Il se trouve dans l'Ancien Testament en tant qu'annonçant la venue du Messie, et il se trouve dans le Nouveau Testament en tant que figure de la Jérusalem céleste. Donc l'Ancien est figure du Nouveau, et le Nouveau annonce déjà la Jérusalem céleste. Ou alors, on voit encore d'autres analogies. Par exemple, la barque de Pierre, ballottée par les flots, est la figure de l'Église persécutée. La ruine de Jérusalem prédite par notre Seigneur est la figure de la fin du monde. Et c'est pour cela que dans l'évangile de dimanche dernier, il était dit à la fin, « En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera que tout ne soit accompli. » Alors que tout ne soit accompli, en fait, en figure, dans la mesure où tout ce qui allait se dérouler par la ruine de Jérusalem était une figure de ce qui se déroulerait à la fin des temps. Quelle est l'extension que l'on peut donner au sens typique? Eh bien, comme toujours, la vérité se trouve dans un milieu. Il y a deux excès à éviter. Les figuristes qui disent « Tout dans l'Ancien Testament est figure non seulement dans l'ensemble, mais jusque dans le détail ». et les antifiguristes qui disent ils ne nient pas l'existence du sens typique, mais ils ne l'admettent que pour les passages qui sont commentés dans le Nouveau Testament. Alors la position catholique, le sens typique existe dans les passages où sa présence est révélée par l'écrivain sacré, par exemple le baptême par rapport à la mer Rouge, ou encore par la constante tradition de l'Église. Donc vous voyez, la deuxième référence, ça reste toujours la tradition, l'écriture, mais la tradition, ce que l'Église a toujours enseigné. Et c'est pour ça que justement dans le Concile Vatican II, il y a une confusion qui a été faite dans le décret de la Sainte Écriture, où il semble faire mention que d'une seule source de la révélation, à savoir la Sainte Écriture. On a exclu la tradition, puisque les protestants nient que la tradition soit pour nous un moyen de connaître la révélation. Parce que pour les catholiques, il faut toujours retenir les deux, la Sainte Écriture et la tradition. La tradition, c'est ce que les pères de l'Église ont enseigné, c'est le consensus unanime à la fois des pères de l'Église dans l'espace et également dans le temps, ce que l'Église a toujours cru pendant 20 siècles. Et c'est pourquoi on dit, mais comment un catholique est capable de juger, par exemple, de la crise de l'Église? Eh bien, c'est facile, il suffit de savoir ce que l'Église a toujours enseigné. Si aujourd'hui elle enseigne le contraire, on se dit, bien, il y a un problème. Je dois m'appuyer sur ce que l'Église a toujours enseigné. C'est pour ça que Mgr Lefebvre aimait souvent à redire, quand il disait, mais vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes tout seul contre tout le monde. Et mais non, je ne suis pas tout seul, nous avons 20 siècles d'Église. Donc il y a cette continuité dans le temps, il y a cette tradition de l'Église qui est un argument de poids pour connaître la pensée de Dieu sur les différents problèmes qui se posent aujourd'hui. Ça donnait à la doctrine, à la foi et aux mœurs. Pour connaître le sens typique, nécessité d'une révélation. Ce sens nous est donné par le magistère de l'Église. C'est éminemment le sens inspiré, car il a Dieu exclusivement pour auteur. En effet, Adam n'avait pas conscience d'être la figure du nouvel Adam. Isaac, en portant le bois, n'avait pas conscience qu'un jour notre Seigneur porterait le bois et que ce bois était la figure du bois que porterait notre Seigneur. Donc ce sens typique a Dieu et Dieu seul pour auteur. Mais même quand le sens typique existe, le sens littéral constitue une réalité parfaite en soi. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure, sinon il s'agirait simplement d'un symbole. Donc celui-ci suffit à l'écrivain sacré. Pour qu'il y ait sens typique, trois éléments sont nécessaires. Tout d'abord, la réalité historique de la chose ou de la personne qui va être assumée comme figure, à la différence du symbole, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Une certaine similitude entre le type et l'antitype. Pour être figure de notre Seigneur, il fallait bien qu'il y ait quand même une analogie. S'il n'y a aucune analogie, en ce moment-là, la figure ne représenterait rien du tout. Mais il n'est pas nécessaire qu'il y ait une similitude parfaite sous tous les aspects entre le type et l'antitype. Par exemple, Melchisédek est type du souverain prêtre. Il a eu des parents et il est mort, mais l'Écriture n'en parle pas parce qu'il est figure de notre Seigneur. C'est Saint Jean Chrysostome qui le dit. Troisièmement, l'intention divine manifestée par révélation de figurer une chose par une autre. Donc pour qu'il y ait sens typique, il faut qu'il y ait l'intention divine manifestée par révélation de figurer une chose par une autre, si bien que Dieu a disposé la vie des grands hommes de l'Ancien Testament de telle sorte qu'ils apparaissent comme les images du Messie futur. Ainsi, par exemple, Suzanne est l'image de l'Église persécutée que Dieu sauve. Vous vous rappelez de cette jeune femme innocente qui était condamnée pour adultère par deux vieillards et qui finalement est libérée grâce à l'intervention du prophète Daniel. Eh bien, en tant que persécutée, elle est l'image de l'Église, et ensuite sauvée par Dieu, puisqu'elle est sauvée par le prophète Daniel. Il y a trois espèces de sens typiques, on l'a déjà dit tout à l'heure, là on le réexprime sous une autre manière. L'annonce d'une réalité dogmatique, soit elle touche la vie morale des fidèles, ou encore elle annonce des récompenses de la vie future. Et c'est ainsi que, par exemple, la ville de Jérusalem peut avoir trois sens typiques. La ville de Jérusalem annonce d'une réalité dogmatique, c'est la ville sainte. Ou c'est plutôt, Jérusalem qui est ville sainte est plutôt l'image de, comme vérité dogmatique de l'Église catholique, c'est le symbole de l'Église. Ensuite, touchant la vie morale de l'Église, la Jérusalem représente, est un symbole de l'âme des fidèles, à la différence de Babylone qui représente l'âme des pécheurs. Et, également, troisième sens typique de Jérusalem, elle peut encore symboliser et représenter, plutôt représenter, la Jérusalem céleste. Donc, une même chose peut représenter trois, peut avoir trois sens typiques différents. Le sens typique peut être propre ou impropre. Par exemple, tu ne briseras pas ses os. C'est ce qui avait été marqué dans la Sainte Écriture concernant l'agneau pascal. On ne devait pas briser un seul de ses os. Eh bien, pas un des os de notre Seigneur n'a été brisé. Donc là, en ce moment-là, le sens typique a vraiment un sens propre. Et si Dieu avait dit qu'on ne devait pas briser les os de l'agneau pascal, c'était bien sûr en prévision de notre Seigneur qui devait rester intègre. La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Alors là, c'est un sens typique impropre. C'est un psaume qui le dit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre rejetée par les bâtisseurs, qui sont les bâtisseurs, sont les juifs. Elle a été rejetée par eux et elle est devenue la pierre d'angle. Eh bien, c'est notre Seigneur. Notre Seigneur est la pierre d'angle qui est rejetée par les juifs. Et c'est pourquoi notre Seigneur dira au peuple juif, n'avez-vous pas lu qu'il a été écrit, la pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Donc notre Seigneur lui-même commente ce psaume de l'Ancien Testament. Le sens typique a une même force probante que le sens littéral, puisque ce sens est voulu de Dieu, et les pères de l'Église l'ont utilisé pour prouver la doctrine. Cependant, le sens littéral est suffisant par rapport à l'ensemble des vérités de foi. Alors, y a-t-il prééminence du sens typique sur le sens littéral? Par rapport à l'origine, il n'y a pas de différence, puisque les deux ont Dieu pour auteur principal, ils ont une même dignité. Par rapport à la signification, le sens mystique est supérieur au sens littéral, puisque il désigne des vérités qui sont plus hautes. Ainsi, l'immolation de notre Seigneur, c'est une réalité qui est plus haute que l'immolation de l'agneau pascal, l'immolation d'une bête. Par rapport à la force probante, on peut dire que le sens littéral a souvent plus d'impact comme argumentation. C'est plus facile de prouver la résurrection à partir des textes du Nouveau Testament que de prouver la résurrection à partir de Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine, du requin. Troisièmement, le sens accommodatis ou non inspiré. Comme ça, dans les sermons, vous pourrez dire, tiens ça, monsieur l'abbé Troisdègue, là c'est le sens littéral, là c'est le sens spirituel. Maintenant, on passe au sens accommodatis. Le sens accommodatis existe quand les paroles de la Sainte Écriture sont appliquées dans un sens différent de celui que l'auteur sacré a voulu exprimer. L'accommodation doit être fondée sur une similitude, une analogie entre les choses, les personnes décrites par l'auteur sacré et d'autres vérités qu'il n'avait pas en vue. L'accommodation peut se faire par extension, c'est-à-dire application à d'autres personnes que l'auteur sacré n'avait pas en vue. Ainsi, par exemple, dans le livre de Josué, il est dit au chapitre 1, verset 5, « Je serai avec toi, je ne t'oublierai pas, ni ne t'abandonnerai. » Et saint Paul étend ce texte à tous les hommes, dans son épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5, il dit « Que l'amour de l'argent n'inspire pas votre conduite, car Dieu lui-même a dit « Je ne te laisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » Donc, c'est une accommodation. Lorsque Dieu dit à Josué « Je serai avec toi, je ne t'oublierai pas, ni ne t'abandonnerai », il n'avait pas du tout en vue les fidèles auxquels s'adresse saint Paul aux Hébreux. Donc, il n'avait pas en vue ces personnes-là. Donc, c'est bien une accommodation. Autre exemple, dans le livre de l'Exode, il est dit au chapitre 16, verset 18, « Celui qui ramassait beaucoup de manne n'avait rien de plus, et celui qui en avait peu n'en avait rien de moins. » Alors c'est comme accommodation, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais enfin, c'est saint Paul qui le fait. Saint Paul étend ce texte où les questions de la manne à l'aumône, entre la manne et l'aumône, que ceux que vous avez en trop supplient à ceux qui leur manquent, pour que ceux qu'ils ont en trop supplient à ceux qui vous manquent. Bien sûr qu'on voit bien comment peut se faire également cette façon d'égaliser les choses. Et ensuite, saint Paul dit, ainsi s'établira l'égalité, selon ce qui est écrit, celui qui en avait beaucoup n'en avait pas plus. Et celui qui en avait peu n'en avait pas moins. Donc saint Paul applique dans son épître aux Corinthiens le passage de l'Exode qui est au chapitre 16, verset 18. Mais il est certain que Moïse, lorsqu'il écrivait cela dans son Exode, il n'avait pas du tout en vue, ni même le bon Dieu, quand il lui inspirait cela, n'avait pas en vue la collecte que devait faire saint Paul quelques millénaires plus tard. L'Église utilise ce mode d'accommodation par extension dans la liturgie. Par exemple, l'application du livre de l'Ecclésiastique à la Vierge Marie. Dans les messes que nous avons du samedi, de façon générale, l'Épître, quand on lit l'Épître, c'est un texte de l'Ancien Testament, qui est un des livres de la Sagesse, et souvent de l'Ecclésiastique. Eh bien, on peut adopter ce texte à la Très Sainte Vierge. Mais au départ, ce n'était pas le but que le bon Dieu s'était fixé. Mais ça reste ce n'est pas parce que ce n'était pas un sens inspiré au départ que ce n'est pas un sens religieux pour autant, et qu'on doive le négliger, comme on le verra tout à l'heure. L'accommodation par allusion, quand la similitude porte sur les mots seuls de la Sainte Écriture. Notre Seigneur descendit de la montagne. C'est une allusion à l'humiliation de notre Seigneur pour sauver les âmes. Le fait que notre Seigneur descende, le fait de descendre de la montagne est le signe que notre Seigneur s'abaisse jusqu'à nous. Le fait que notre Seigneur dise à saint Pierre de quitter la terre pour aller pêcher en eau profonde, le fait d'aller pêcher en eau profonde est le signe qu'il faut quitter la terre pour s'approcher de Dieu. Mais c'est encore une accommodation. Et il y a des choses très belles qu'on peut découvrir comme ça, mais qui ne sont pas en soi, qui ne sont pas tout à fait... Donc qui ne sont pas vues directement par Dieu au départ, mais qui souvent sont très, très édifiants pour la piété, et qui ne sont donc pas à négliger. Donc deux règles à suivre pour ce sens accommodatis. Jamais d'abord le sens accommodatis n'aura de valeur probante démonstrative. Par exemple, dans le livre de l'Ecclésiastique, « Je suis la mère du bel amour, de la crainte, de la science et de la sainte espérance. Venez à moi, vous tous qui me désirez. » n'a aucune valeur pour démontrer l'Immaculée Conception ou la médiation de Marie. Puisque ce sens n'avait pas, c'était pas le sens voulu par Dieu au départ. Et il faut veiller ensuite dans l'utilisation de l'accommodation à ce que la parole de Dieu ne soit révélée ni traitée avec irrévérence. Et le Concile de Trente a interdit toute application des textes bibliques à des sujets profanes. Alors aujourd'hui, quand on voit le nombre de fois dans les compétitions sportives en particulier où on fait appel à ces références bibliques en disant qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus ou que les derniers sont les premiers, c'est sûr qu'on s'éloigne du sens voulu de Dieu au départ. Donc il faut même que nous fassions attention, parce que c'est vrai que dans la mesure où on connaît très bien ces textes, on les possède, on s'amuse à faire des applications, mais c'est vrai que ce n'est pas... Quand on sait ce qu'est la Sainte Écriture, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, quand on a vraiment ce sens de la Sainte Écriture, eh bien, on devrait éviter de les utiliser à tort et à travers. Par contre, il est permis et même utile de recourir à l'accommodation dans les sujets de piété et pour un but d'édification. L'Église elle-même recommande vivement cette pratique, car elle est efficace pour alimenter la vertu et la piété. Alors, après ces trois sens, il reste à dire un mot, comment découvrir le sens du texte inspiré? Comment fait l'Église pour savoir quel est le sens littéral? Là, c'est pas trop difficile. Où est-ce qu'il y a un sens typique et qu'est-ce qui est le sens accommodatif? Tout d'abord, il y a les règles d'interprétation générale. Il faut, comme nous l'avions dit la dernière fois, reconstituer le texte primitif aussi exactement que possible, à partir de tous les manuscrits que nous avons. Ensuite, il faut déterminer le sens exact des mots composant un texte à expliquer. Ensuite, il faut remettre le passage dans son contexte grammatical, logique et psychologique. Il faut déterminer le genre littéraire. Il est évident que le commentaire de l'Apocalypse ne se fait pas de la même manière que le commentaire des livres historiques de l'Ancien Testament. Ou le commentaire de l'Évangile de Saint Jean ne se fait pas de la même manière que le commentaire des autres évangélistes. Ensuite, il faut tenir compte des différentes circonstances de composition du livre. Il faut recourir aux passages parallèles, comme je vous ai dit tout à l'heure. Certains passages sont commentés dans d'autres passages, et même beaucoup de passages sont commentés ailleurs. Ensuite, il faut faire usage des anciennes versions et de leurs commentaires, voir les commentaires qu'en a déjà donné l'Église, et après se servir des résultats de la philologie comparée. Alors, c'est ce que fait l'Église d'une façon générale. Les règles d'interprétation catholique. L'Église est l'interprète de l'Écriture sainte. Le rôle du magistère est de garder, défendre, proposer le dépôt de la foi. Quelles sont les sources auxquelles on puise cette interprétation authentique? Bien, toujours pareil, la tradition et les décisions du magistère de l'Église. Certains passages de la Sainte Écriture sont commentés dans d'autres passages, nous l'avons dit. Ainsi, notre Seigneur va expliquer lui-même le sens de la parabole du semeur. Pour savoir le sens de la parabole du semeur, bien, il suffit de lire le commentaire qu'en a fait notre Seigneur. Le magistère de l'Église donne le sens authentique de certains passages, soit directement et positivement. Par exemple, le passage suivant, « Celui qui ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint ne rentrera pas dans le royaume des cieux. » L'Église a déterminé que ce texte était bien relatif au baptême. Ou alors l'Église, parfois, va donner le sens authentique, mais d'une façon négative. Par exemple, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez de son sang, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » L'Église, par rapport à ce passage, a dit que ce texte n'implique pas la nécessité de communier sous les deux espèces. On aurait pu dire, puisqu'on doit se nourrir de la chair du Fils de l'homme et de son sang, on doit se nourrir sous les deux espèces. Eh bien, l'Église a dit non, ce n'est pas le cas. Ou alors le magistère de l'Église donne encore le sens authentique d'une façon indirecte, quand l'Église rapporte le témoignage de l'Écriture sainte. De même que le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort, ce texte est relatif au péché originel. Et également par tous les décrets de la commission biblique. Ensuite, autre règle d'interprétation pour connaître le sens de la Sainte Écriture, le consensus unanime des pères. Donc les pères sont les pères de l'Église des premiers siècles qui ont commenté abondamment la Sainte Écriture. En général, lorsqu'il y a unanimité dans l'interprétation, on peut se dire c'est ce sens-là qu'a la Sainte Écriture. Lorsqu'il y a divergence, en ce moment-là, on peut interpréter dans le sens que l'on désire. Il y a liberté. Et ensuite, troisième critère, l'analogie de la foi. Pour les passages qui n'ont pas encore reçu d'interprétation, l'interprétation est libre par rapport au sens, mais bien sûr ne doit pas être contraire aux autres passages, ne doivent pas être contraires à notre foi, c'est-à-dire doit être conforme à l'ensemble des vérités catholiques. Alors, en conclusion, pour cette introduction, qui était rapide, mais j'espère qu'il vous a donné un petit peu les grandes lignes pour mieux puiser la Sainte Écriture, pour mieux comprendre le sens. Si beaucoup de textes de la Sainte Écriture peuvent être interprétés sans difficulté grâce aux critères que nous avons donnés, il n'en reste pas moins que plusieurs difficultés demeurent, non encore résolues ou insolubles. Et saint Augustin dit à ce sujet, Dieu a parsemé à dessein de difficultés les livres saints qu'il a inspirés lui-même, afin de nous exciter à les lire et à les scruter avec d'autant plus d'attention, et pour nous exercer à l'humilité par la constatation salutaire de la capacité limitée de notre intelligence. Notre tendance, ce serait de dire, si c'est Dieu qui l'a inspiré, pourquoi est-ce qu'il est allé chercher des choses si compliquées? Parce qu'il y a des passages qui sont, c'est vrai, difficiles à comprendre. Eh bien, la réponse nous est donnée par saint Augustin. C'est pour nous inviter à l'humilité. Nous voudrions tout comprendre, tout connaître. Eh bien, non. Notre Dieu est un Dieu caché. Deus absconditus. Et comme c'est un Dieu caché, eh bien, nous ne le connaîtrons parfaitement qu'au ciel. Et encore, il y a les degrés de connaissance de Dieu. Et c'est justement le rôle des exégètes de se pencher sur ces difficultés pour trouver une explication qui satisfasse l'inhérence de la Bible, à savoir qu'il n'y a pas d'erreur dans la Bible, et les conclusions certaines des sciences profanes. Je dis bien les conclusions certaines des sciences profanes. L'évolutionnisme n'est pas du tout une conclusion certaine. Et quand on voit que l'Église, moi en France, dans le catéchisme qui était sorti là, de Pierre Vivante, se met à la remorque des résultats scientifiques pour prôner l'évolutionnisme, eh bien, en ce moment-là, on se dit qu'elle n'a pas un jugement correct, un jugement catholique, tout simplement. Normalement, le jugement catholique, c'est de suivre ce que l'Église a toujours enseigné, tout en laissant ensuite, bien sûr, aux sciences profanes de continuer leurs recherches, puisque nous savons n'importe comment il ne pourra jamais y avoir d'opposition entre la science et la foi, puisque le Dieu de la science est aussi le Dieu de la foi. Il n'y a qu'un seul Dieu. Alors pour terminer, je vais vous présenter assez rapidement une chronologie de l'Ancien Testament. Alors je vous distribue pour que ce soit plus facile à suivre. Un texte. Une chronologie depuis Adam et Ève jusqu'à notre Seigneur. Adam et Ève. Alors la question piège qu'on pose, c'est de qui descendons-nous? De Caïn ou d'Abel? Eh bien, c'est ni de l'un ni de l'autre, c'est de Seth. Puisque nous savions que Caïn a tué Abel, et là on se dit, ben, si nous on descend de Caïn, c'est un peu dommage. Déjà meurtrier. Eh bien, c'est ni de l'un ni de l'autre. Soupir de soulagement, c'est de Seth. Alors, de Seth, ensuite, il y a 8 générations jusqu'à Noé. Noé, qu'on peut déterminer à peu près comme ayant vécu 3000 ans avant Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui est paru il y a déjà quelques années, peut-être au moins une quinzaine d'années, de Fernand Navarra, « J'ai trouvé l'arche ». L'arche a été retrouvée au sommet du mont Ararat en 52. Le 17 août 1952, le français Fernand Navarra, accompagné de Jean Ricker, voit une masse sombre de 120 mètres évoquant la forme du plat-bord d'un vaisseau pris dans les glaces. Mais malade, il est contraint de redescendre. Cependant, il y retourne 2 ans plus tard, le 5 juillet 1954, avec son fils Raphaël, 11 ans. Il s'agit bien de la carcasse d'un navire. Le 6 juillet à 7 heures, il prélève un bout de poutre de la plus ancienne épave du monde. Des experts ont en effet examiné ces fragments et ont conclu qu'il s'agit du bois de chêne travaillé datant d'environ 5000 ans. Ainsi donc, la date du déluge est la même du point de vue de la Bible et de l'archéologie. Que pourrait-ce être d'autre de toute façon? Parce que pour trouver un bateau à 4000 mètres d'altitude... Donc ensuite, Noé a eu 3 fils, Sem, Cam et Japhet. Cam a donné les Camites, Canoran, qui a donné le peuple africain. Ensuite, parmi ses descendants, il y aura eu également Nemrod qui bâtira la tour de Babel et de Ninive, et la ville de Ninive. Et Japhet donnera les Asiatiques, les Européens, les Américains et les Australiens. Tandis que Sem donnera le peuple sémitique, donc le peuple juif, le peuple élu. Alors ensuite, si on part du peuple élu, de Sem à Abraham il y a 12 générations, le père d'Abraham étant taré. Abraham, 1800 ans avant Jésus-Christ, a pour fils Isaac et Ismaël. Ismaël, ça va donner les Ismaélites, qui donnera ensuite le peuple arabe, les musulmans. Vous savez que les musulmans disent qu'ils ont aussi pour père Abraham. Mais eux sont descendants d'Ismaël, tandis que les Juifs sont descendants d'Isaac. C'est pour ça qu'ils sont en dehors du petit cercle que j'ai fait. Enfin, de la masse informe que j'ai fait. Ensuite, Isaac a pour fils Ésaü et Jacob. Ésaü donnera le peuple iduméen, qui également posera pas mal de soucis au peuple juif, au peuple hébreu. Et ensuite, Isaac aura pour fils Jacob. Jacob donnera naissance à 12 fils qui formeront les 12 tribus d'Israël. De la tribu de Lévi sortira Moïse en 1240 avant Jésus-Christ. Et de la tribu de Juda, après 9 générations, viendra Jessé. Jessé qui donnera naissance à David. David qui a vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. David aura pour fils Salomon, qui aura pour fils Roboam, et en ce moment-là, ce sera le schisme entre le royaume de Juda, qui formera la tribu de Juda et de Benjamin, et puis ensuite Jéroboam, qui formera le royaume d'Israël avec les 10 autres tribus. Et ensuite, la descendance de David jusqu'à notre Seigneur, 14 générations jusqu'à la déportation, et 14 générations ensuite de la déportation jusqu'à notre Seigneur. Et cela nous est donné dans la généalogie de notre Seigneur, depuis Abraham jusqu'à notre Seigneur, nous est donné par Saint Matthieu. Dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Matthieu, vous trouvez toute la généalogie. Et puis... Ensuite, les autres, Lot, Bathuel, Laban, Rebecca, Lia et Rachel, tous ces noms je vous les ai marqués simplement pour mieux suivre la prochaine fois le développement sur Abraham, où on devra parler également des autres membres de sa famille. Voilà, donc là je pense que vous avez une chronologie qui peut vous aider à ne pas dire trop de bêtises en parlant des hommes principaux de l'Ancien Testament, que vous puissiez à peu près les situer, quoi. Savoir à peu près quand est-ce que Noé a vécu, Abraham, Moïse, David, c'est quand même des choses à connaître. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, d'une façon générale, nous estimons que la certitude, nous l'avons donc jusqu'à Noé, comme je l'ai dit. Entre Noé et Adam et Ève, c'est sûr que c'est plus délicat. L'Église ne s'est pas prononcée là-dessus. Le pape Pie XII avait dit qu'il laissait les recherches ouvertes. Mais c'est sûr qu'avec les chiffres que nous avons dans la Bible, même en comptant les différences entre la traduction grecque des Septante, des Samaritains, et celle des Hébreux et la Vulgate, on ne peut pas remonter à plus de 8000 ans. Alors c'est sûr qu'avec les aires généalogiques, ça apparaît... C'est même pas la question des aires généalogiques d'ailleurs, parce que le bon Dieu a très bien pu faire le monde... il y a 1 milliard d'années, et puis attendre 1 milliard d'années pour faire venir l'homme, c'est pas gênant. Parce que pour le bon Dieu, 1 milliard d'années, c'est comme un jour, et un jour comme 1 milliard d'années. Mais c'est la question plutôt des crânes anciens qu'on aurait pu découvrir, et puis également des animaux. Alors là, la question reste ouverte. C'est pas, il n'y a pas de... L'Église n'a jamais déterminé un sens littéral pour depuis Adam et Ève jusqu'à Abraham, c'est pas jusqu'à Noé en tout cas. On n'est pas très sûr, donc le débat reste ouvert. Mais là, ce que je vous donne, c'est quand même la chronologie telle qu'elle est donnée dans la Sainte Écriture. En particulier, quand le bon Dieu dit qu'il a fait le monde en 7 jours, 7 jours, ça peut très bien être 7 périodes, et des périodes de millions d'années. Voilà. La prochaine fois, peut-être je vous développerai un petit peu plus la chronologie, mais déjà, je vous la laisse afin que vous ayez... De quoi apprendre pour la prochaine fois. Y aurait-il des questions à poser? Non. tout va très bien. Il n'y a pas de mystère. Eh bien alors, c'est parfait.